Ouais, j'ai passé plusieurs années ici, ouais. Dans le bistrot on est là, au Nemours.
Ouais.
Et puis en face, à la Comédie Française. Ouais. J'avais 17 ans. J'étais artiste dramatique de complément. En un mot, figurant. Voilà. Ça, d'ailleurs, j'ai retrouvé ça il y a quelques temps. Ma toute première fiche de paye. Tu vois, 16 septembre 66. Alors, Comédie Française, numéro d'employeur, on s'en fout quand même. Le nom David As, emploi, tu vois, artiste dramatique de complément. Période du 16 septembre 1966 au 30 septembre 1966 inclus. Date 17, 19, 21, 23, 24, 26. Nombre de cachets 6. Montant du cachet 8 francs 65. Parce qu'il faisait 51 francs 90. Mais c'était des répétitions. Donc en septembre 66, j'ai débarqué dans cette maison-là que tu vois. Elle est entourée de colonnes. Et en ce moment, elle est un peu en chantier. Elle est place Colette, avec une station de métro absolument hideuse, que tu peux voir avec des boules. Je ne sais pas où ils ont sorti ce truc-là. Je n'avais pas remarqué, il y a 1, 2, 3, 4 étages. Ouais. Et nous, bah, on habitait dans les sous-sols de la Comédie Française. Et c'est là où il y avait les loges pour se changer, s'habiller, mettre nos costumes d'albardier. C'était un long couloir qui menait sur une grande pièce où il y a plein de miroirs pour se maquiller. Et puis après, et puis on passait chez le costumier, chez le perruquier. Et alors, le Nemours, c'était... par exemple, quand j'ai été figuré dans Cyrano de Bergerac, j'étais du 1 et du 4, du premier acte et de la fin du 4e. Et entre les deux, on venait ici. Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Le brigadier, à la Comédie Française, ce n'est pas comme dans un théâtre, tu sais, ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta, et les trois coups. Là, c'est en fait trois fois trois coups. Et au fur et à mesure, tu sens la salle, la rumeur de la salle qui s'estompe, qui disparaît. Pour arriver au dernier coup, c'est le silence absolu. Tu as même l'impression que le dernier coup résonne, alors qu'il ne résonne pas, c'est assez mat. Et tu entends... le rideau qui se lève. Devant toi, tu as le comédien, le premier, qui va dire la première réplique. Tu sens la tension, il est tendu, mais là... Et hop, la réplique sort, et là tout va bien. Tu sais, une fois qu'elle a été prononcée, tout va s'enfiler, tout va aller très bien. Et ça. Mais juste au premier son prononcé, tu as une tension et un silence. Je savais que je ne serais jamais comédien français, je connais jamais une certaine idée du talent que je pouvais avoir. Mais j'ai voulu prononcer quelques mots sur ce putain de plateau. Et j'ai dit une fois, un ivrogne doit boire son Bourgogne à l'hôtel de Bourgogne, avec le ton et tout. Et j'ai senti ma voix partir dans les cintres comme ça. C'est génial. Il n'y a pas un métier qui te donne cette sensation du théâtre, du plateau, de son odeur, de sa poussière, et de ta voix qui part comme ça dans un silence habité. On est là, on est dans le 72, rue de Rivoli. Non, je voulais faire avec la pluie, en fait. Nous allons passer devant Jeanne d'Arc.
Non, mais je vais faire un screen du billet, comme ça, je vais pas aller sur Internet. Regarde,
10h22. Quand on faisait les émissions, par exemple, où j'ai débuté à l'Oreille en Coin, je n'ai quasiment rien de l'Oreille en Coin. C'est-à-dire qu'on fabriquait notre truc.
Concorde.
Une fois la bande mixée et montée, on la laissait avec truc pour le dimanche, pour la diffusion du dimanche suivant, mais on ne la récupérait pas là-bas. C'est un château de sable. Il est beau, on est tac, et puis il y a le vent, et puis la marée, et puis voilà, c'est fini, on en fait une autre.
Radio France, pont de Grenelle.
Nous sommes aux ondes devant la maison de la radio à Paris dans le 16e arrondissement. Et après la Comédie Française, ce sera ma troisième maison et apparemment la dernière. Ça ressemble à un grand truc rond avec une tour au milieu. Tout le tour, il y a des portes d'entrée. A, B, C, D, E, F, il y a 5 entrées. Et là, il n'y en a qu'une là en façade. Toutes les autres sont fermées à cause de Vigipirate. C'est forcément le chantier parce que là, c'est la façade qui est prête là. Tout l'intérieur, je veux dire que c'est un peu le bordel hein, là-dedans. Hein. Bonjour. Oui, et un café aussi.
Et deux cafés ?
Oui, ça va être super. Donc en 74, je me suis retrouvé le 1er septembre à faire ma première émission. Elle n'a pas été fabriquée ici. J'ai un copain de régiment qui s'appelle Yann Egan. Donc avec Yann et Thomas Sertilange, qui lui était un copain d'art dramatique, Thomas avait loué un petit appartement rue Mozart. Avenue Mozart, pardon, au 13, dernier étage sous le toit. Il avait deux pièces, si ma mémoire est bonne. Et la seconde pièce, ben Yann avait installé trois Revox, deux tourne-disques, une petite console pour mixer. Et Yann, qui faisait de la radio à cette époque, fabriquait ce jingle-là, on lui faisait des jingles et tout. Et ils avaient, eux, tous les deux, tout seuls, fait en juillet 1974 une émission one-shot pour l'Oreille en coin sur les premiers pas de l'homme sur la Lune, un truc comme ça. Et Gareto et Kudo ont proposé à Yann et à Thomas de faire quatre émissions, mais musicales. Donc ils m'ont appelé pour qu'on fasse un truc sur la comédie musicale américaine. Et là, refus du technicien de diffuser une émission, il se rend compte que ça vient pas de chez eux. On se retrouve donc à refaire l'émission en studio. Et le technicien en question, c'est Yann Parentoen. Et donc on fabrique notre troisième émission au studio 125, qui n'existe plus maintenant, mais de la maison de la radio. C'était un studio avec une cabine dans laquelle il y avait 1, 2, 3, 4 magnétos, 3 tourne-disques, une console et de l'autre côté de la vitre, dans le studio même, une table, grande table ronde avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 micros. Il y avait 4 équipes de techniciens qui tournaient. Donc toutes les 4 semaines, on retrouvait Yann Parentoen. Je me souviens, plusieurs fois, on s'est retrouvés à faire. Ça l'amusait beaucoup. Le 125 était au rez-de-chaussée. On tirait un câble dans la cour intérieure parce qu'il trouvait que la résonance de la cour, c'est ce qu'il y avait de mieux que les chambres d'écho artificielles de bonne qualité, hein, qui n'existent plus maintenant. C'est des fausses chambres d'écho. Elles sont numériques, mais à cette époque-là, c'était vraiment des chambres, des vraies. Ah oui, oui, oui. On appelait le centre de modulation, le CDM. On dit, tu m'en mets une longue, une courte, machin truc, tu la veux comment ? Oh, c'est petite. Il nous ouvrait sur une chambre et on récupérait l'écho comme ça. D'un côté de la chambre, il y avait un baffle qui donnait le son et de l'autre côté de la chambre, il y avait un micro qui récupérait et on n'avait plus qu'après à doser en cabine. Maintenant, avec les trucs numériques, il faut chercher le truc, tac, tac, tu tournes, hall de gare, église, machin, truc, tu mets une plombe. Tu peux pas improviser. Ce genre, avant, t'improvisais. Et une fois, on était dans une grotte, on était censé être dans une grotte avec une goutte d'eau qui tombe. Donc la goutte d'eau, il y avait des gouttes d'eau sur des disques de bruitage, mais c'était pas terrible. Donc on a tiré un câble jusque dans les toilettes. Une boîte de bandes magnétiques était métallique à l'époque, c'était des boîtes métalliques, dans le lavabo. Doser l'ouverture du robinet, on se fait chier là, pour qu'il goûte vraiment comme on a envie qu'il goûte, et on enregistre. Et on enregistre aussi le type qui vient faire pipi, qui se rend compte de rien. Mais on faisait des trucs comme ça jusqu'à 3 heures du mat. On fermait la boutique. Merci. Je me suis retrouvé à faire les nuits du week-end avec Jean-Charles Asquero. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du direct. Alors vraiment du direct, je ne savais pas ce que c'était que le direct. Mais comme c'était la nuit, 1h30, 5h du matin, dans les nuits de samedi et dimanche et de dimanche à lundi, t'es peinard, quoi. Tu peux prendre des risques. Personne ne t'écoute. Enfin, de ta direction. Par les auditeurs, t'as personne pour t'écouter. T'es peinard. Parce qu'à cette époque-là, donc, d'un côté, on ne pouvait pas venir avec une bande qui n'avait pas été fabriquée ici, mais ce qu'on appelle le fer à cheval, c'est-à-dire la partie du studio où tu as les deux techniciens, donc une console, et de chaque côté de la console partent d'un côté les magnétos et de l'autre côté les tourne-disques, toi, le réalisateur, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette zone-là. C'est une zone interdite à cette époque-là. Le fer à cheval. Et un jour, je suis arrivé avec une bite pleine de bobineaux. Une bite, c'était un porte-bobineaux, hein, mais bon, on appelle une bite. Hein, c'est quoi. Et me voir, et puis une tonne de disques. Donc j'enfile le matos, un conducteur, et moi je reste de mon côté du fer à cheval, je m'installe. Et il y a Jocelyn qui me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tout ça? Allez, viens. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer dans le fer à cheval, où j'ai aidé le second technicien à caler les trucs, à repérer les machins. T'as le mec qui parle sur de la musique. Est-ce qu'il lit un texte, on raconte une histoire. Donc il parle sur de la musique. Mais toi, tu dis en même temps au technicien, attention, quand il en arrive là, tu lui montres l'endroit sur le texte où tu as fait un grand trait pour lui dire que là, tu casses avec ça. L'autre lui fait écouter le truc avec lequel il va casser la musique. Et puis, paf, il envoie. Je lui dis, attention, dans 20 secondes, tu as ça envoyé, Mac 2. Fais-lui écouter le début du Mac. Vite. Le mec, recale. Pour m'envoyer. Enfin, c'est ça, là. Tu fais ça pendant 3 heures. C'est génial. Et tu ne réécoutes pas ce que tu as fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les fichiers numériques, la première fois que je suis allé en studio, les mains dans les poches, tu n'imagines pas l'angoisse. Tu dis, mais merde, j'ai tout oublié, quoi. Alors là, on en revient à l'atelier, c'est-à-dire que je suis revenu à la radio avec une paire de ciseaux et de la bande magnétique, moi. Et eux, ils commençaient, il y en avait toujours, heureusement. Je suis revenu au bon moment, je serais revenu 3 ans après ou 2 ans après, même, j'aurais eu des difficultés plus grandes. Mais la chance a voulu que toute ma période à la télé, je travaillais en numérique. Je ne touchais pas la machine, il y avait un technicien, évidemment. Mais j'en avais tout le principe, toute la mécanique. Et j'ai été formé au numérique en 2004. J'ai fait un stage avec Sadi. C'est le logiciel de culture, un logiciel anglais. Je crois que c'est le même que celui de la BBC. Bêtement, j'ai été formé à Netia, le logiciel d'Inter, la semaine suivante. Ce qui n'était pas une très bonne idée. On va reprendre 2 cafés, s'il vous plaît.
On va prendre 2 cafés ?
Ouais.
Sans sucre, à ce que je vois.
Quel œil ?
Un spéculoos seulement, à ce que je vois.
Et avec... c'est Jean-Charles Asquero qui, pour les 10 ans de son émission, avait fait son émission direct du hall, là, avec des invités, donc de 1h30 à 5h, donc en pleine nuit. Et il avait, donc j'étais invité, je ne travaillais plus avec lui à ce moment-là, enfin j'étais là. Et il avait eu l'idée de dire aux gens qui habitent dans les tours en face, le front de scène de l'autre côté de la scène, si vous les écoutez en ce moment, allumez et éteignez la lumière. Il n'y en a pas eu énormément, mais tu as des fenêtres qui se sont mises à clignoter comme ça. Ben, ça te fait marrer, mais c'était hyper émouvant. Hyper émouvant. Tu fais une émission de radio à 3h du matin, ou je ne sais pas quelle heure il était quand il a eu cette idée-là, parce que ce n'était pas prévu, il l'a improvisé comme ça. Et tu as des lumières, oh, pas beaucoup, mais tac, tac. Génial. C'est pour ça que leur supprimer cette radio de nuit et de ne leur filer que de la conserve de la radio qui est faite pour le jour et non pas pour la nuit, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont plus rien à écouter. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de gens qui sont en phase avec eux au même moment, qui vivent en même temps qu'eux. Tu vas t'emmerder là, mais c'est bien, c'est le métier qui rentre, c'est bon.